toute cette semaine. France Culture fête la musique, aujourd'hui avec un trompettiste de jazz, un grand, c'est Éric Truffaz, notre premier invité. Bonjour à tous. Comme beaucoup de musiciens, il ne prendra pas cet été ou virtuellement seulement la route des festivals. On le retrouvera en revanche pour un rêve d'Avignon début juillet, sur la scène du studio 104 de la Maison de la Radio avec France Culture. Une lecture musicale avec la comédienne Sandrine Bonner. Le mariage du jazz et du drum and bass. Son dernier album, Lune Rouge, est sorti en octobre chez Foufino Productions Warner Music. On peut le retrouver en ce moment dans les bacs, il va aussi nous en parler. Éric Truffaz est donc avec nous jusqu'à midi et demi. Puis, troisième épisode de notre série Vie des idées, en route pour l'inconnu, que demain ne ressemble pas à hier, avec le politologue bulgare Ivan Krastev. Il publie aujourd'hui même « Est-ce déjà demain ? Le monde paradoxal de l'après-Covid » aux éditions Premier Parallèle.
La grande table. Olivia Gesbert.
Bonjour Éric Truffaz.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Écoutez, je vais un peu mieux maintenant que j'ai réussi à me connecter.
Ah, c'était une angoisse ? La technique,
oui,
c'est pas votre
angoisse.
Truc.
Moi, je suis très ému de passer à la grande table parce que c'est une des émissions que j'ai le plus écoutées dans ma vie. Et donc, j'avais peur de rater ce moment.
Oh, bah, c'est très gentil. Bah, on est ravis de vous avoir avec nous. Vous avez été confiné, vous, Éric Truffaz, en Bourgogne. Eux, c'est-à-dire vos musiciens, chacun chez soi, en Suisse. Est-ce qu'ensemble, vous avez pu composer, répéter, jouer, vous accorder ?
Alors, on a pu s'accorder puisqu'on a fait une petite vidéo à distance. On n'a pas joué ensemble. Hein. J'ai surtout créé des musiques et joué avec un pianiste israélien qui s'appelle Shai Maestro, avec qui on s'est envoyé des choses. Et j'ai pu composer aussi une pièce pour piano qu'on a joué à Lille il y a quelques jours.
Vous avez vécu ce temps, ce moment, comme un temps de création ou de créativité forcée, subie, où vous avez su en prendre parti ?
Vous savez, en tant qu'artiste, le confinement est un peu un luxe. Parce que lorsque on a une vie de concert, on est beaucoup pris par les voyages, le temps se rétrécit et, comme dit Baudelaire, bien qu'on ait le cœur à l'ouvrage, l'art est long et le temps est court. Donc le confinement, le temps était long et ça m'a permis d'inventer des choses, de lire plus aussi, d'avoir un autre espace-temps.
Lune Rouge, c'est votre dernier album, Éric Truffaz, que vous avez concocté, conçu avec le Éric Truffaz Quartet, que vous avez créé il y a 30 ans, hein, ce quartet avec Marcello Giuliani à la basse. Certains sont partis, d'autres vous ont rejoint, dont Benoît Corboz, depuis 20 ans. Et puis un jeune dernier, 28 ans seulement, qui est arrivé, le batteur Arthur Natek. Vous qui aimez explorer les styles, les sonorités, là, sur cet album, Lune Rouge, quelle couleur musicale vous avez choisi pour lui ?
C'est-à-dire que j'ai pas choisi de couleur musicale pour Arthur Natek, c'est lui qui en a choisi une pour nous. Parce que pour cet album, on a décidé, de concert avec mes collègues, de lui demander de prendre la direction artistique. Et donc il y a une partie des compositions qu'il a amenées, il s'est occupé du mixage de l'album, et donc on lui a fait confiance. Je pense que c'est très important... pour ce qui me concerne de me renouveler avec des jeunes. D'ailleurs, le dernier concert que j'ai donné à Lille, c'était avec Stréa Besson et elle a aussi 28 ans.
Il y a eu des collaborations dans votre vie, beaucoup, avec des voix aussi, hein, des chanteurs comme Christophe, comme Anna Aron pour El Tiempo de la Revolution, l'un de vos précédents albums, ou encore la Suisse Sophie Unger sur l'album In Between. Cette fois, vous avez invité d'autres voix, des nouvelles voix. Qui sont-elles ?
Alors, il y a une jeune chanteuse suisse qui s'appelle Andrina Bollinger, qui est d'ailleurs la compagne d'Arthur Natek, et puis un chanteur qui vient des États-Unis, qui s'appelle José James, avec qui j'avais déjà collaboré dans un hommage à Chet Baker.
C'est un chanteur de Minneapolis. Hein.
Oui.
Andrina Bollinger, on l'écoute, cette chanteuse suisse alémanique, poser sa voix sur les notes de votre quartet, Eric Truffaz.
The moon shines quiet, reflects about her longing for.
Bollinger, extrait de cet album, le vôtre, le dernier, celui du Eric Truffaz Quartet, paru à l'automne, que l'on retrouve dans les bacs Eric Truffaz, She's the Moon, ça c'est le titre de cette chanson. Il est totalement lunaire en fait cet album, pas simplement par les mots que vous lui avez choisis, aussi par les sonorités.
Par les sonorités, puis par les... Le titre de chaque chanson, effectivement, se rapportait à la cosmologie. Oui.
D'où ça vient ?
Bon, le titre de Lune Rouge m'est venu alors que je revenais de Corse et sur le bateau, il y a eu un moment une magnifique Lune Rouge. Ça vient aussi de mon rapport finalement à l'incarnation, où je suis quelqu'un qui est quand même assez lunaire.
Ah voilà.
Ça vient de ça aussi.
Ouais, mais ce rapport à l'astronomie, à la cosmologie, ça c'est une vieille passion pour vous ?
Non, c'est une vieille passion qui date de ma naissance, puisque...
Est-ce que vous pensez que vous venez de là-haut ?
Non, pas du tout, mais chaque être est un mélange entre son incarnation terrestre et puis son incarnation plus spatiale, quoi. On est entre, c'est toujours la vieille adage asiatique, le yin et le yang, quoi, entre la terre et le ciel.
Mmh. L'alignement.
Je pense qu'on est un équilibre entre ces deux choses et ça définit chaque personne.
Mmh. Un équilibre et un alignement parfait que vous avez le sentiment d'avoir trouvé aussi au sein de ce quartet pour cet album, Eric Truffaz.
Écoutez, chaque fois qu'on trace une ligne musicale, on essaie d'être au plus juste. Alors je dirais jamais parfait, parce qu'on essaie toujours d'aller plus loin et la perfection n'existe pas. Mais en tout cas, un alignement que nous avons confirmé à un moment. Oui.
Mmh. On parle de quartet, mais est-ce qu'avec ces participations, est-ce qu'on pourrait presque parler parfois de quintette ou pas, ces collaborations vocales ? Est-ce que la voix pour vous, Eric Truffaz, est un cinquième instrument ou est-ce qu'elle a une place totalement à part dans l'ensemble?
On va dire que la voix est un cinquième instrument. Quand je jouais avec Christophe, qu'on se faisait des réponses, j'avais vraiment l'impression de faire des contrepoints avec sa voix. Et j'ai l'impression que la voix démocratise un petit peu aussi la musique instrumentale. C'est pour ça que je mets toujours des voix aussi dans mes disques, que je trouve que ça fait du bien. Je suis un grand fan de la voix.
C'est étonnant.
Et d'ailleurs, j'essaie de jouer un petit peu comme un chanteur.
C'est quoi jouer comme un chanteur ?
Ouais, savoir un son qui soit le plus proche de la voix, et puis finalement de pas dire plus de mots à la trompette qu'un chanteur ferait de notes.
Ne pas dire plus de mots à la trompette qu'un chanteur ne ferait de notes. C'est dans
C'est-à-dire
le bon sens.
Pas faire plus de notes à la trompette qu'un chanteur dirait de mots.
Deux mots. On démocratisait la musique, démocratiser votre musique avec cette collaboration de la voix qui peut sembler peut-être plus accessible. C'est cette idée-là aussi, Éric Truffaz?
Oui, la difficulté est toujours de faire une musique savante mais qui reste populaire. C'est-à-dire que ça soit accessible, effectivement. Les refrains, les mélodies, c'est quand même... Et les formules rythmiques, c'est quand même ce qui définit l'accessibilité.
Il y a une voix
et qui a fait une partie de mon petit succès.
Il y a une voix que vous aimez associer à votre trompette aujourd'hui, au son de votre trompette, c'est celle de Sandrine Bonner, avec laquelle vous avez engagé plusieurs collaborations. Vous avez juste à l'instant cité aussi l'ami Christophe, qui vous a quitté très récemment. Il est un peu le fil aérien de cette semaine musicale de Jean-Michel Jarre, hier, qui avait écrit pour lui les mots bleus, à Rodolphe Burger, qui nous rejoindra vendredi pour son nouvel album Environ, et qui le connaissait bien aussi, d'ailleurs, tous les deux, Rodolphe Burger et vous, Éric Truffaz, il y a aussi des connexions. Vous avez rendu hommage à Christophe avec une reprise jazz de sa chanson Le Temps de Vivre, reprise qui a été diffusée sur Nova le 17 avril dernier. On l'écoute. D'abord Christophe et après vous, Éric Truffaz.
Dans l'avenue sous la pluie, je marche droit devant, bousculé par des gens que je ne connais pas. Et je me sens fatigué. À chaque pas, la nuit tombe sur mes cheveux collés, dans ces phares qui éclairent ma guitare mouillée.
Même la mort est trompée. Je veux partir avant que vienne l'heure. Je quitterai ce monde qui se meurt. Je veux mourir avant longtemps, loin de ce bruit, loin de ces gens. Je n'ai pas eu le temps de vivre. Je n'ai pas eu le temps de vivre. Dans le brouillard glacé, Même la mort est blasée.
Très belle reprise du Temps de vivre de Christophe par vos soins, Éric Truffaz avec Sandrine Bonheur. Les paroles étaient de Jean-Michel Jarre, hein, de cette chanson.
Vous en êtes sûr?
Je sais pas, à vérifier. On vérifiera.
Je pensais que c'était des paroles de Christophe. Je pense que Christophe aurait été heureux de cette reprise. Je dois vous avouer que je suis pas absolument fan de la chanson, que je trouve un peu trop légère. Mais les paroles sont incroyables.
Ils sont crédités tous les deux, hein, Jean-Michel Jarre et Christophe.
Ah ben alors les paroles, Jean-Michel Jarre, c'est un parolier extraordinaire.
Ouais, elles sont et ces mots-là sont particulièrement déchirants. Je veux partir avant que vienne l'heure. Je quitterai ce monde qui se meurt.
Je pense que Christophe aurait aimé ces reprises qu'il aimait lorsqu'on faisait des morceaux qui étaient sur un seul mode. C'est-à-dire que ça change pas d'harmonie. Il adorait ça, Christophe.
Je n'ai pas eu le temps de vivre. Est-ce que vous, vous prenez le temps de vivre, Éric Truffaz?
Ah oui, je me lève le plus tôt possible, je me couche le plus tard possible. Alors peut-être, oui, je pense que je prends le temps de vivre pour creuser le chemin que j'essaie de tracer.
Et vous, savez où est-ce qu'il devrait vous mener, où est-ce que vous souhaitez qu'il vous mène, ce chemin que vous tracez?
Alors pas du tout. Ce qui m'intéresse, c'est plus le parcours que le but. Ce qui m'intéresse, c'est le temps présent et les projets, l'imaginaire, et écouter France Culture.
Est-ce que vous êtes un éternel insatisfait?
Ah non, pas du tout. Je suis pas du tout. Je suis plutôt un éternel satisfait. Je cherche toujours, mais et j'essaie de trouver des choses qui me procurent du plaisir à la mesure de ce que je cherche.
Il y en a beaucoup?
Oui. Ah oui, c'est formidable, oui. Quand on a fait cette chanson Le Temps de vivre avec Sandrine, c'était réellement... Nova, elle m'a appelé 2 jours avant, hein, c'était rapide. Et, par exemple, ce résultat... m'a fait très plaisir. Après, quand j'ai joué cette pièce il y a quelques jours, qui m'a pris beaucoup de temps à Lille, avec Estrella Besson, et que je la réécoute, je suis très très content.
Vous avez découvert le jazz avec lui, Miles Davis. Vous êtes souvent comparé à Miles Davis, hein, et j'imagine que ça ne vous déplaît pas, même si il faut quand même à un moment...
Un peu exagéré, ouais. Bien sûr. Bon, totalement exagéré, parce qu'on n'a pas...
Ça, c'est pas à vous de juger.
Oui, mais je peux avoir une vue là-dessus. Je trouve que c'est un petit peu exagéré parce qu'on n'a pas du tout le même parcours et on n'a pas vécu les mêmes choses. Miles Davis, c'est un peu comme Picasso, il a vécu plein de périodes. Moi, j'ai vécu effectivement le passage du vinyle à l'ordinateur, mais pas du cheval à la voiture.
Mais il avait le souffle long, Miles Davis, comme vous?
Miles Davis avait le souffle long et puis il avait l'instinct de se renouveler avec le temps. C'est ça qui est le génie parfait pour réunir des musiciens.
Il y a un moment, de toute façon, dans une vie ou dans un parcours de musicien où il faut savoir dépasser ses modèles, c'est aussi une manière de les honorer. Quand est-ce que vous vous êtes dit, Éric Truffaz, ça y est, j'ai trouvé ma voix, ma propre voix?
Bon, déjà, je me suis jamais dit que j'avais dépassé mes modèles, ça c'est sûr. Et puis, je pense que j'ai commencé à me dire que j'avais trouvé ma propre voix lorsque j'ai compris que je pouvais utiliser les notes graves de la trompette. Parce que quand on est au conservatoire, le but, c'est de jouer le plus haut possible. Et c'est pas ce que je ressens et que je sais faire. Et dès que j'ai commencé à utiliser le son qui finalement me correspond, J'ai compris que j'avais trouvé ma propre voix. J'ai l'habitude de dire, par exemple, dans les quelques workshops que je fais, je dis aux gens, essayez de découvrir qui vous n'êtes pas. Ça vous aidera à découvrir qui vous êtes et vous gagnerez du temps.
C'est comment un son grave à la trompette ?
Moi, j'ai pas ma trompette à côté de moi, mais je parle déjà des sons qui on joue dans les notes graves. Donc ça correspond plus à des artistes comme John Hassell ou Chet Baker, par exemple. C'est ça. C'est un peu des gens comme des gens qui chantent dans le grave. Et puis les sons aigus, pour caricaturer, c'est un peu les sons qui sont utilisés dans la salsa. Les sons très, très vifs et percutants.
Vous avez dit un nom magique. J'aimerais que vous nous parliez un peu de cet artiste, John Hassell, qui est un peu moins connu du grand public, en tout cas que Miles Davis. Après 9 ans d'absence, il avait sorti, il y a 2 ans, un nouvel album, Listening to Pictures, Pentimento volume 1. Le mois prochain paraîtra le 2e volume de cet ensemble, intitulé cette fois Seeing Through Sound. C'est un trompettiste assez visionnaire. Je vous propose qu'on écoute un extrait de Fearless, qui sera dans ce nouvel album à paraître, Fearless, de John Hassell. Aussi avec lui ce jeu de nuances très particulière. Est-ce qu'il est pour vous à la fois visionnaire, à la fois un peintre? Vous parliez de la peinture tout à l'heure, hein, un peintre avec un pinceau de son, John Hassell. Qu'est-ce qu'il représente pour vous?
Écoutez, John Hassell est très très important parce que dans les années 70, il a fait 2 albums avec Brian Eno qui s'appellent Possible Music Volume 1 et 2. Et c'est le premier trompettiste qui a fait de la musique avec de l'électronique. Et il est un modèle absolu pour des trompettistes comme Niels Peter Molvær qui vient de Norvège et moi-même. Et on lui doit cette... Cette vision, il a trouvé quelque chose que Miles n'avait pas trouvé. Il a trouvé autre chose et il nous a beaucoup influencé et beaucoup aidé. D'ailleurs, il le sait. Il m'a déjà invité pour jouer. J'ai joué avec lui au Canada et il a mis sur son site à quel point il nous avait influencé. Donc il a eu l'idée d'utiliser la musique électronique avec la trompette et de jouer la trompette avec quelques notes en se référant à des musiques ethniques. Ce qui a fait un peu Don Cherry aussi, mais lui il l'a fait avec des... Là il n'utilisait que 5 notes au maximum.
Être un précurseur, influencer les autres, ça on imagine que c'est important aussi à un moment, ce passage de relais dans la vie d'un musicien. Le 23 juin à Besançon, pourtant, vous allez encore rendre hommage, Éric Truffaz, à quelqu'un qui vous a beaucoup influencé, avec qui vous avez travaillé. Vous allez présenter Rugir, un programme de 5 pièces en hommage à Pierre Henry, pionnier lui aussi de la musique électro-acoustique, inspirateur du mouvement électro. C'est un rendez-vous qui sera en public, mais limité forcément par la contrainte sanitaire. Je crois qu'il y a déjà plus de places disponibles. Il y aura des caméras qui vont pourtant capter l'ensemble, donc on pourra vous retrouver virtuellement. Je vous propose d'écouter juste avant de reparler les mots de Pierre Henry sur la solitude de l'artiste.
J'ai une destinée incroyable, parce que j'ai voulu rassembler, j'ai voulu faire moi quelque chose de nouveau, au point de vue de l'oreille. Et puis, finalement, tout le monde me reconnaît, c'est vrai, c'est tout à fait extraordinaire. Mais ce qui est important, c'est ma solitude dans le studio, quotidienne, dans ma maison. Je descends le matin, je me lève, je vais au studio, je déjeune, je fais la sieste, je redescends au studio, je me couche, je rêve beaucoup de mes sons, j'ai des nuits musicales et je suis seul, je vois personne. C'est pas très intéressant de voir les gens. Ce qu'il faut, c'est les ressentir et les faire venir à soi.
Cette belle phrase de Pierre-Henri, même si vous multipliez, vous, les collaborations, Éric Truffaz, est-ce qu'avec Pierre-Henri, vous diriez que ça a été la rencontre aussi de deux solitudes?
Bon, je vais pas faire comme les politiciens, je vais essayer de répondre à votre question qui est délicate. Ce que j'adore avec la phrase de Pierre-Henri, c'est qu'il il parle finalement du confinement des artistes. Hein. On est seul face à notre création. Et puis la seule solution, c'est de toute façon redescendre chaque fois dans notre grotte, mais on aime réellement être dans notre grotte. Et puis après, ce qui est important, c'est le partage. Et il met bien ça en exergue. D'ailleurs, la petite création qu'on va faire à Besançon, je l'ai appelée Rugir, parce que Pierre-Henri a édité un livre chez Actes Sud qui s'appelle Journal de mes sons, qu'il m'a dédicacé. Avant qu'on fasse un spectacle, il avait écrit « Au plaisir de rugir à nouveau ensemble ».
D'où le titre du spectacle.
Ouais. Voilà.
Rugir. Jouer ensemble, c'est rugir ensemble, effectivement, d'une certaine manière. Laisser sortir ce souffle intérieur que vous évoquiez de soi-même, le tourner vers un public, crier, dire en musique ce qu'on a à dire. Je dois quand même évoquer, avant qu'on se quitte, une clameur, celle des Lucioles, que l'on pourra entendre au studio 104, le 9 juillet, avec France Culture. Vous y serez à la Maison de la Radio, avec Sandrine Bonner. Et ce programme très particulier, on en écoute un court extrait, si vous le voulez bien, cette balade urbaine où vous vous êtes inspiré des sons et peut-être aussi des silences de la ville.
Je viens de comprendre seulement aujourd'hui que mon livre ne se fera que dans les bars, dans le bruit et les conversations interminables, exacerbées, nées de la rue. Quelle est cette matière à mes pieds, contre mon corps et dans mes yeux?
Ce sera avec Marcello Giuliani et Sandrine Bonner. Vous reprendrez le 9 juillet au Studio 104 dans le cadre du programme Un rêve d'Avignon sur France Culture. Cette clameur des Lucioles, lecture musicale que vous avez déjà montée. Éric Truffaz, en un mot, c'est la rencontre de deux écritures, celle des mots et de la musique. Les bruits de la ville, ça se transforme bien en musique?
Ah ben oui, la ville, c'est un rythme. Ce qui est important, c'est de dire qu'en fin de compte, c'est l'écriture de Joël Bastard qui a influencé la musique. C'est le son de la voix de Sandrine, mais c'est une dynamique par rapport à l'écriture. Et on sera en duo, il n'y aura pas Monsieur Giuliani. Voilà. Juste Sandrine Bonner et moi.
Et j'ai oublié de citer Joël Bastard, effectivement. Ce sera donc le 9 juillet dans le cadre de cette programmation spéciale Un rêve d'Avignon de France Culture. On aura le plaisir de vous y retrouver, Éric Truffaz. Merci mille fois à vous d'avoir été avec nous autour de cette petite grande table à distance. Et à très bientôt de visu. Merci.
Merci mille fois.
À bientôt.